Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 17 novembre 2025. La semaine qui vient de se terminer n'aura pas été simple. On a vu le bout du tunnel du côté shutdown, mais on a vu directement les autres problèmes se pointer à l'horizon. Que va-t-on nous donner comme chiffres? Quelles seront les conséquences? Comment la Fed va les prendre? Nous sommes dans un brouillard total et en plus, les marchés sont en pleine rotation de secteur et de perte de confiance vis-à-vis de l'IA. Et les doutes nous assaillent de toutes parts et les jours qui nous attendent vont être compliqués. Entre les données économiques qui peuvent nous tomber dessus d'un instant à l'autre et Nvidia qui va nous tomber dessus mercredi soir, tout est possible et tout peut arriver. L'économie américaine revient donc d'un shutdown historique. Les chiffres économiques vont sortir avec un mois de retard, s'ils sortent, parce que rien n'est moins sûr. Pour ce que l'on sait, l'inflation s'accroche, ne veut rien lâcher et veut surtout pas retourner en direction des 2% comme le voudraient Powell et ses amis. Et pendant ce temps, l'IA tient littéralement l'économie à bout de bras, mais on commence à nous dire qu'il y a des fissures qui apparaissent dans tous les coins. Alors pour le moment, soit les indices américains tiennent le choc et refusent obstinément de casser la tendance, mais la certitude de voir les taux baisser en décembre s'amenuisant petit à petit, on craint que l'on puisse plus tenir très longtemps. Il faut tout de même se souvenir que depuis plus de 2 ans, les marchés fonctionnent et carburent au narratif. Un narratif qui dit que la Fed va baisser les taux, un narratif qui est d'ailleurs renforcé depuis le début de l'année par un président américain qui hurle dans tous les sens que les taux directeurs devraient être à 2%, voire même plus bas. Aujourd'hui, en ce lundi matin, j'ai pas encore vu les chiffres, mais disons que c'est plus près du 50% de chance d'une certitude comme elle l'était affichée il y a encore 2 mois en ce qui concerne la baisse des taux. Il faut dire que ces 43 jours de shutdown nous ont quand même bien mis la tête dans le sable. On ne sait absolument pas où nous en sommes côté chiffres macro, mais pas besoin d'être un devin pour savoir que ça risque bien d'être tout pourri. Les organismes privés qui font le même boulot que les fonctionnaires nous ont prévenu il y a 10 jours, ça sera très moche. Octobre n'a pas été le meilleur mois de l'année pour l'économie et surtout pas pour l'emploi. Et ces chiffres vont tomber après 43 jours de fermeture. Donc le rapport sur l'emploi de septembre sortira ce jeudi avec près de 50 jours de retard. On finance le 50 jours, c'est une éternité. Tesla peut changer 12 fois sa stratégie et augmenter les bonus de Musk à 2000 milliards. Trump peut déclencher 3 guerres commerciales, se fâcher avec la Chine et partir en vacances de Noël avec Xi Jinping sur l'île d'Epstein. Et Nvidia peut valoir 1000 milliards de plus ou de moins. Autant dire que lire la data de septembre, c'est comme lire la météo de la semaine passée. Ça risque de ne pas trop nous aider à savoir ce qu'il va falloir porter comme veste pour aller au bureau. Mais attention, même si c'est pas très précis, très brouillon et peu clair, n'oublions pas que notre ami le marché est extrêmement susceptible et peut réagir avec excès comme n'importe quel être humain qui s'assoit au volant d'une voiture. Si c'est mauvais, panique totale, le marché du travail s'effondre. Si c'est bon, panique quand même. C'est du vieux chiffre, ça compte pas. Bref, le rapport de septembre va sûrement nous apprendre ce qu'on sait déjà, que c'est pas terrible, mais comme on s'attend à bien pire pour le mois d'octobre, il n'y a pas de raison de paniquer et de mettre la charrue devant les bulls. La grande question restera, mais quand c'est qu'ils vont nous sortir les chiffres d'octobre? Vont-ils les sortir? Et s'ils les sortent, que vont-ils nous cacher? Et les rumeurs ne sont pas très encourageantes, mais il faut quand même garder en tête que ça sent, que si c'est vraiment mauvais, Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux, lancer un QI à la place du QI, et se foutre pas mal de ce que ça va faire à l'inflation. Par contre, si c'est vraiment mauvais et que Powell baisse les taux, ça voudrait aussi dire que Trump raconte n'importe quoi. Et comme il est déjà en pas mal en difficulté dans les sondages, sa réaction risque d'être bien un épique. L'autre tension à laquelle il va falloir faire face, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors avant de dire du mal sur l'IA, il ne faudra pas l'oublier que sans l'IA, l'économie US serait déjà en PLS, peut-être pas en récession, mais pas loin. Et donc si le marché commence à croire que l'IA ralentit, Wall Street va presser la récession avant même d'attendre les chiffres. Parce que sur les marchés, vous savez tous qu'on tire d'abord et qu'on pose les questions ensuite, basées sur la bonne vieille méthode mise en place par Giuliani dans les années 90 pour donner le pouvoir à la police à New York. La semaine dernière, on a bien vu que la rotation de secteur avait commencé. Les intervenants ont clairement réduit l'exposition aux techs survitaminés pour se réfugier dans les vieilles valeurs robustes. Vous savez, celles qui bougent moins et qui payent des dividendes régulièrement. C'est en général le signal universel de Wall Street pour dire j'ai peur. Les valeurs value montent quand les investisseurs n'ont plus d'idées. C'est pas une stratégie, c'est un refuge. Pour l'instant, afin de connaître la direction à prendre ou la marche à suivre, le marché attend un déclic, mais on ne sait pas lequel. Peut-être juste du concret qui permettrait de mettre un nouveau coup de boost au bull market. Et lorsqu'on creuse un peu les médias financiers, je vous avoue que c'est pas la fête au village. La seule chose qui me rassure un peu, c'est que l'indicateur de CNN sur la peur des investisseurs est en zone extrême et en général, c'est pas quand on se retrouve à ces niveaux que les marchés paniquent, parce qu'ils y sont déjà. on panique et que ça se voit. Et quand ça se voit, c'est pas là que ça baisse. En général, après, on sait tous qu'il y a toujours un gars qui se pointe et qui dit c'est l'exception qui confirme la règle. Alors oui, il y a des signes comme quoi tout n'est pas fini, mais il y a quand même d'autres signes qui disent que la Fed a tenu des réunions top secret avec les banques de Wall Street parce que le marché du financement à très court terme commence à grincer. Tout d'abord, le recours massif à la facilité de rachat, le repo de la Fed, signe que les banques ont besoin de cash en urgence. Ensuite, le QT qui aspire du cash hors du système bancaire, et ce même s'il est censé se terminer en décembre. Il y a aussi l'émission massive de dettes par le Trésor US qui siphonne de la liquidité. Et pour être clair, moins de cash dispo, plus de besoin de cash urgent, tout ça stresse le petit monde de la banque et donc la Fed intervient discrètement, undercover, pour anticiper l'escalade. Alors bien sûr, c'est pas encore une crise comme en 2008 ou en 2020, mais ce sont des signaux sérieux que quelque chose pourrait déraper si la Fed ne calme pas le jeu. Et puis, comme s'il n'y avait pas assez de mauvaises nouvelles comme ça, on apprend ces derniers jours que la crise immobilière 2025 serait parmi nous. Les foreclosures, autrement dit les saisies immobilières, ont explosé de 20%. Là non plus, c'est pas encore 2008, mais ça commence à sentir le soufre. On parle de 37 000 maisons parties en procédure le mois dernier, et en tête, on retrouve la Floride. Là-bas, une maison sur 1829 finit dans les bras de la banque. Mais alors, pourquoi ça déraille, me direz-vous? Parce que les Américains se prennent des hausses de taxes, d'assurance et de coûts de la vie à répétition, et c'est pas les déclarations de l'agent Orange qui dit que tout va bien qui paye l'augmentation d'à peu près tout au supermarché du coin. Je vous donne juste un exemple, l'assurance habitation a pris 50% en 5 ans, à ce niveau-là, c'est plus une prime, c'est une punition. Et puis, il y a aussi le génie de l'investissement immobilier qui ont acheté avec un taux à 7% en se disant « T'inquiète, je refinancerai quand ça redescendra ». Sauf que c'est jamais redescendu. Sur une maison à 400 000 dollars, la récente baisse des taux leur aura fait économiser grosso modo 100 dollars. En conclusion, les gens sont surendettés, paumés et commencent à lâcher prise. Et c'est que le début. Entre le marché du travail qui tremble, le shutdown fédéral qui a foutu le bazar dans les salaires et les factures qui explosent, les défauts vont répondre présents dans les prochains mois. Bref, les Américains ont vécu comme si tout était illimité, sauf que maintenant, c'est la réalité qui leur présente la facture. Alors oui, je sais, vous auriez voulu des annonces plus chouettes pour commencer la semaine, c'est pas faute d'en chercher, mais là on tourne en rond et malgré tout ce que l'on veut bien nous dire, tout ne va pas si bien et ça commence à se voir. La semaine commence donc avec plein de questions dans la tête et pour l'instant, les marchés ont l'air de s'être levés du bon pied. Les futurs sont en hausse et on ne parle que des chiffres de Nvidia qui sortiront mercredi soir et tout le monde flippe, tout le monde a peur et si c'était légèrement moins bon, SoftBank a tout vendu, Burry est short, Peter Thiel s'est tiré avec du cash avec une valorisation de 5 000. Hier, on n'a vraiment pas besoin de la moindre déception. L'Asie démarre la semaine en mode merci mais non merci. Le Japon ouvre avec un PIB en baisse de 1,8%. C'est moins pire que prévu, mais ça reste quand même pas terrible. Le Nikkei est en baisse de 0,3%. La consommation est molle. Les exportations sont plombées par les tarifs de Trump. Seul point positif, l'investissement des entreprises limite la casse. Du coup, une hausse des taux au Japon en décembre semble peu probable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme si le Japon n'avait pas assez de problèmes, voilà que la Chine entre en scène. Pékin déconseille désormais à ses citoyens d'aller au Japon après des propos de la première ministre sur Taïwan. Résultat, carnage dans les valeurs touristiques japonaises et marché chinois dans le rouge. Heureusement, la Corée du Sud apporte un peu de soleil. Le Kospi rebondit de 1,7% grâce aux semi-conducteurs toujours. Samsung et Hynix voient leur stock fondre, leur stock de chips, signe que la demande explose. Et Samsung annonce encore plus d'usines. Le pétrole est à 53, l'or est à 4083 et le bitcoin continue de ramer à contre-courant et se traite à 95 000 $ en équilibre instable sur des zones où il voudrait mieux qu'on n'ait pas cherché plus bas et le rendement du 10 ans américain est à 4,15. Dans les nouvelles du jour, on notera qu'il y a des bruits de couloir sur le rachat de WPP selon le Sunday Times. Havas, la maison Bolloré, serait en train de réfléchir à mettre la main sur l'ex-roi de la pub qui est devenu trop bon marché. Rien d'officiel, mais on entend tout de même dire ici et là que des grands noms du private equity seraient sur le coup pour acheter des morceaux de la boîte. WPP est devenu tellement bon marché que même les géants du private equity se demandent s'ils ne devraient pas sauter sur l'occasion. Bolloré renifle la bonne affaire, les hedge funds sont short et on se demande qui va tirer en premier. Le roi de la pub est officiellement passé en rayon et liquidation. Une des grandes questions du week-end, c'est aussi Berkshire Hathaway qui a annoncé une prise de participation dans Alphabet. 4,3 milliards investis dans Alphabet. Oui, Warren Buffett, allergique historique à la tech et qui part en retraite, devient actionnaire de Google. Évidemment, ce move ne vient pas de Warren. Warren lui-même, mais de ses deux snipers, Ted Wexler et Todd Combs, déjà responsables du pari Amazon en 2019. Et vu qu'Amazon pèse encore 2,2 milliards chez Berkshire, les deux compères savent ce qu'ils font. La seule question que le marché se pose, c'est pourquoi Alphabet ? Non, parce que le titre a déjà pris 46% cette année, dopé par l'IA et le cloud. Ce n'est pas la première incursion de Berkshire dans la tech, puisqu'Apple est déjà à la plus grosse position. Mais l'entrée dans Alphabet, c'est un signal clair. Berkshire ouvre grand la porte aux géants du numérique. Et le départ de Buffett pourrait renforcer la chose. Buffett n'aimait pas la tech, mais la tech l'a rattrapé. On commence donc la semaine en équilibre instable. Les chiffres économiques arrivent en retard, le shutdown a mis un merdier monstrueux dans nos têtes, la liquidité se fait la malle et l'immobilier commence à craquer. L'IA tient encore la baraque, mais même là, on voit des fissures et malgré tout ça, les marchés font semblant d'être détendus alors qu'ils transpirent abondamment. Tout le monde attend mercredi soir pour savoir sur Nvidia, point final. Cette semaine, Nvidia, c'est le juge de paix, la banque centrale non officielle du marché. On n'a pas le droit à la déception et jeudi matin, plus rien ne sera jamais pareil. Soit on repart pour un tour, soit c'est le bain de sang. L'indicateur Greed and Fear nous dit qu'on a trop peur pour que ça finisse mal. Mais le marché actuel n'est plus celui qu'on a connu. Et la seule certitude de ce lundi matin, c'est que tout peut arriver. Et si quelque chose arrive, ça sera mercredi soir. Côté chiffres, il y aura le PIB en Suisse, le New York Empire Manufacturing Index, le Construction Spending et plusieurs membres de la Fed qui vont parler, dont Waller. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,45% et la semaine commence bien. On serre les fesses, on a des œillères, mais ça commence bien. Bon lundi, bon début de semaine et à demain pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle. C'est quand même vachement cool, même si selon ChatGPT, elle peut détruire l'humanité. À demain et très bonne journée.